Salut, c'est Lucien Roy, expert de l'efficience personnelle pour mettre ton entreprise au service de ta vie riche et impactante. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Musy. Salut Julien.
Salut Lucien.
Et donc, comme d'habitude, pourquoi est-ce que j'ai invité Julien? D'abord, Julien, il a un très beau parcours. Et puis, sans le savoir, il m'aide beaucoup en fait dans mon business parce que lui, il apprend aux gens à gagner de l'argent en ligne et surtout dans le service. Et ensuite, ces gens, on se préoccupe de leur temps, on se préoccupe de leurs loisirs, etc. Et c'est à ce moment-là que souvent, j'interviens. Est-ce que tu peux te présenter, Julien?
Yes, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Leader de ton marché, il y a maintenant 2 ans et demi. Ouais, il y a maintenant 2 ans et demi. À la base, moi, j'avais créé mes premiers tunnels de vente et mon premier business en ligne qui fonctionnait très bien à la pâtisserie, ensuite en second dans la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, essentiellement les tennismans. Et au bout d'un moment, j'avais automatisé le tennis et je me demandais qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Et j'ai toujours une passion pour le marketing, le développement personnel. Et beaucoup d'entrepreneurs me demandaient, mais comment tu fais, Julien, comment tu as fait pour tout automatiser et pour réussir à générer 7-8 000 euros par mois juste avec la pub Facebook et tes tunnels de vente et tout? Et je me suis dit, en fait, ça m'inspirerait d'aider des gens à faire pareil que ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai lancé Leader de ton marché justement il y a 2 ans et demi. Et donc, on aide des coachs, des consultants, des thérapeutes à développer leur activité en mettant en place des systèmes d'acquisition automatisés pour leur permettre d'obtenir plus de clients sans avoir à devoir chercher tout le temps et se lever chaque matin en se demandant comment est-ce que je trouve mon prochain client.
Ok. Et donc toi, tu l'as dit, tu viens du coaching à la base. Et je pense que je sais pas en fait si à la base leader de ton marché, tu faisais vraiment du coaching au départ ou tu as directement commencé avec une équipe et tout ça.
Non, j'ai vraiment commencé tout seul. Les 8 premiers mois, j'étais seul. Je passais énormément de temps à coacher, à faire du marketing, quoi. C'est simple. Je travaillais 12 heures par jour, en fait, pendant 8 mois. Donc non, j'ai vraiment commencé tout seul à faire que du coaching individuel, mettre en place tout le marketing. J'avais même pas un assistant qui regardait mes mails ou qui envoyait mes factures. Je faisais absolument tout en travaillant 12 heures par jour. Et puis, donc j'ai atteint, je générais plus de 100 000 euros par mois, tous les mois, tout seul, parce que j'avais lu un jour un livre qui s'appelait The One Million Dollar Business Person. Je m'étais dit, waouh, si je peux avoir un business où je fais 1 million tout seul et que personne ne me fait chier, genre, je suis trop content. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'arrive et j'avais pas vu ma copine depuis 7 jours. On était chacun parti en vacances de notre côté. Et on se retrouve, super content de se retrouver, et on s'assoit sur le canapé. Et là, elle me dit, Julien, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, OK, en général, c'est le genre de conversation où ça ne sent pas très bon. Et là, je déglutis, parce que tu déglutis toujours quand ta copine te dit ça, surtout avec le ton et l'énergie dans lequel elle vit. Et je dis, OK, vas-y. Et là, elle me dit, en fait, je suis enceinte. Et là, quand elle me dit ça, je me dis, OK, le premier truc, c'est il me reste 7 mois, en fait. Moi, je n'ai pas connu mon père, et je n'avais pas envie de recréer la même situation que j'avais vécue, tu vois, avoir un père absent. Donc, moi, c'était parce que mes parents étaient séparés, mais je me disais que si je travaillais tout le temps, c'était comme si on était séparés, en fait.
Bah,
Donc,
c'est vrai qu'en
je me suis
bossant
dit, il faut
12 heures
arrêter.
par jour, c'est compliqué de voir
C'est
ses
ça.
enfants, quoi. Ouais.
Exactement. Et j'avais qu'une peur, c'était d'arrêter de bosser. Donc, je me suis dit, il faut que je mette des systèmes en place, il faut que je recrute. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à recruter. Le lendemain, je recrutais la première personne. Et en l'espace de 6 mois derrière, j'ai dû recruter 20 personnes, en fait.
Ok. Du coup, là, la question qui me vient tout de suite, c'est non seulement tu as fait le switch de te dire en fait, je vais plus bosser tout seul, mais aussi tu as eu l'idée de te dire je vais scaler carrément, je vais aller vachement plus gros. Comment ça t'est venu cette idée finalement de te dire en fait, je vais pas me contenter de 100 000 par mois, je vais aller plus haut et on va faire plus.
En fait, bon, j'ai toujours eu cette idée d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus, en fait, que j'ai acquis, je pense, à travers le sport de haut niveau, puisque je viens à la base du sport de haut niveau. J'ai pas été à l'école de 12 à 15 ans et tout ça. Et donc, pour moi, c'était logique d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. Seulement, ce que j'ai remarqué, en fait, dans mon entreprise, c'est que tous les points de breakthrough, en fait, tous les points vraiment où il y a eu un saut quantique dans le business, ça a été à chaque fois parce que je me suis retrouvé dos au mur et que j'avais dans ma tête, je n'avais pas le choix, en fait. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, je n'avais pas le choix, même si j'aurais toujours pu dire, je continue à travailler autant ou alors je laisse le business. Dans ma tête, ce n'était pas une possibilité, en fait. Et j'adore cette notion d'une décision, ça vient de décide, suicide, homicide. Unlimited, c'est tuer toutes les autres possibilités. Et pour moi, c'est bon, j'avais pris ma décision parce que j'avais aucune autre possibilité que d'arriver à travailler moins et d'arriver à dégager du temps. Et je m'étais dit, il me reste 7 mois pour automatiser mon entreprise.
Ok. Et du coup, tu avais peut-être un peu ce truc-là aussi à ce moment de… Tu disais que tu avais peur d'arrêter de bosser. Du coup, tu avais un peu peur que ça s'arrête finalement ou comment ça se matérialisait à ce moment-là?
Je pense qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait effectivement la peur que ça s'arrête si je bosse moins, premièrement. Et il y avait une deuxième peur bien plus inconsciente qui était, à mon avis, l'identification à ce que je fais et non pas à ce que je suis. Et okay. Du coup, si je m'identifie uniquement à mon travail, que je ne suis uniquement que mon travail, si tu m'enlèves mon travail, je ne suis plus rien en fait. Ouais. C'est quelque chose que je vois aussi chez beaucoup d'entrepreneurs.
C'est clair.
Et tu vois, cette identification totale à leur entreprise. Et si l'entreprise va bien, ils se sentent bien. Si l'entreprise va mal, ils n'existent plus en fait et ils se sentent comme une merde. Donc, c'est ce que j'avais inconsciemment, je pense. Et c'est pour ça que ça a été vraiment un déclic pour moi de trouver un moyen de faire autrement parce que c'était vraiment une peur très profonde, quoi.
Mais c'est vrai que c'est souvent ce que je constate aussi avec les gens qui bossent 12 heures par jour, c'est que finalement, il y a très peu de raisons qui peuvent te pousser et qui peuvent te permettre de réussir à vraiment bosser 12 heures par jour. Donc, il faut qu'elles soient vraiment profondes. Et là, j'invite tous ceux qui écoutent à vraiment se poser la question, est-ce que je m'identifie peut-être trop à mon entreprise? Parce que du coup, c'est un petit peu comme le salarié qui fait un burn-out, il s'identifie que à son taf. Et puis le jour où ça tombe, tout tombe dans sa vie en fait parce qu'il ne vaut rien. Il a l'impression que, vu qu'il ne fait rien d'autre dans sa vie que son taf, ça casse tout, quoi.
C'est clair, tu sais, on a quand même des milliers d'entrepreneurs chaque année. Je pense 80% facile des entrepreneurs qu'on accompagne ont ce truc de, en fait, ils veulent aller plus loin parce qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas assez, ils n'ont pas assez et ils veulent générer plus, acquérir plus. Pas à partir d'un sentiment de gratitude et ça m'inspire d'aller plus loin et je me sens prêt pour ça et tout. Mais c'est plutôt à partir d'un sentiment de « ici, je ne me sens pas assez, je me compare aux autres qui gagnent plus d'argent et je me dis que si je ne gagne pas plus d'argent comme eux, je suis une merde en fait. »
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ça et notamment, j'ai pas mal de clients qui ont des difficultés quand il s'agit de faire du réseau ou de demander des interviews par exemple. Ils se disent « Julien, il a un énorme business, jamais il va accepter que je l'interviewe parce que moi, je ne vaux pas assez en fait, je ne gagne que 10 000 euros par mois, tu vois, c'est galère et tout. » Toi, comment tu as passé ce truc-là et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui sont là-dedans?
Franchement, pour moi, ça a été vraiment un gros challenge et je ne pense pas l'avoir complètement dépassé. Tu vois, aujourd'hui, je ne pense, pense pas être l'exemple de la personne qui se sent assez. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude pour ma vie et ça, j'arrive à avoir énormément de gratitude pour ce que j'ai et tout. Je ne pense pas être l'exemple de la personne qui a l'impression d'être assez et je pense qu'il y a une partie de moi qui a encore envie de grandir parce que je ne me sens pas assez et j'ai l'impression que si je fais plus, je serai plus accepté, plus aimé et tout ça. Donc, j'ai juste appris à l'observer et voir quelle est la partie de moi qui agit à ce moment-là. Est-ce que c'est sain d'y aller? Est-ce que c'est malsain d'y aller? Et ok, c'est malsain, je sais que je peux me prendre un mur et je sais que ça ne mènera pas au bonheur, mais au moins j'y vais en conscience. Donc, je suis encore dans un work in progress, tu vois, dans cette intention de me sentir assez. Mais la différence, c'est que par rapport à avant, là, je vois quand est-ce que je suis à partir de ce sentiment de comparaison. Et voilà. Maintenant, je vois que j'ai encore cette pulsion régulière, mais pour autant, ça ne dirige plus ma vie, tu vois.
Ok. Et du coup, pour t'en rendre compte, je sais pas, tu t'écris, tu as des sorte de rituel qui te permet de ça ou alors c'est simplement le fait de t'être tellement posé la question que maintenant c'est assez naturel dans ton quotidien?
J'écris beaucoup et je me fais beaucoup coacher.
Okay.
Donc, je pense que c'est les deux clés pour avoir plus de awareness, tu vois, à propos de comment tu penses, qui tu es et pas fonctionner en automatique tout simplement, tu vois. J'ai des coachs dans tous mes domaines de vie, c'est-à-dire que chaque semaine je dois avoir j'ai 5 rendez-vous de coaching avec un personal trainer, je dois avoir un rendez-vous de coaching avec un business coach, un rendez-vous de coaching avec une meuf plus autour de la spiritualité et tout. Donc, je passe ma vie à me faire coacher parce que je crois que tout seul, tu es à 10% de tes capacités, quoi.
Mmh. C'est vrai que tu avais parlé dans une autre interview de ton budget coaching qui faisait grincer des dents à la compta chez toi. Justement, quand il
Ah,
s'agit de continuer à progresser, là, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le côté délégation. Et au départ, je trouve que c'est une étape qui fait très peur à tout le monde, dans le sens où, bah, comme tu t'identifies beaucoup à ton business, tu as l'impression que bah, du coup, là, quand tu crées 100 000 euros par mois, bah, tu es hyper fier parce qu'en fait, c'est toi. Tu vois, ça vient, chaque goutte de sueur, c'est 1 euro, tu vois, qui tombe. Alors que quand tu as embauché quelqu'un, bah, finalement, il n'y a plus que toi. Ça appartient aussi un peu à quelqu'un d'autre. Enfin, du coup, il y a plein de trucs compliqués psychologiquement qui se mettent en place. Toi, les entrepreneurs que tu accompagnes, quand il s'agit de délégation, tu leur recommandes quoi? À partir de quel moment tu leur recommandes de déléguer? Et surtout, quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faut déléguer? Est-ce que tu délègues un truc que tu sais faire, un truc que tu ne sais pas faire? Comment tu gères tout ça?
alors, j'ai vraiment aucune recommandation sur à quel moment déléguer, puisque je pense que c'est à chacun de voir, en fonction de son style de vie, en fonction de ce qu'il a envie, en fonction de ce qu'il est prêt, ce qu'il veut vraiment, tu vois. Parce que si tu veux beaucoup de profit, bah délègue pas et fais le plus possible tout seul. Si tu veux plus de temps et plus de liberté d'esprit et tout, délègue, mais tu vas cutter une partie de ton profit, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu as envie et quel est le plus gros challenge aujourd'hui de ta vie. Est-ce que le challenge aujourd'hui que tu rencontres dans ta vie, c'est que tu travailles trop et tu n'arrives pas à t'en libérer, à ce moment-là, délègue, ou est-ce que le plus gros challenge, c'est que, j'en sais rien, tu fais que la performance n'est pas assez bonne dans ton entreprise. À ce moment-là, je pense que la plupart du temps, si c'est un domaine que tu maîtrises, c'est d'y aller toi-même, tu vois. Donc pour moi, c'est à chacun de le faire. C'est à chacun vraiment de savoir quand est-ce que c'est le moment. Pour moi, par exemple, j'aurais pas eu ce truc de ma copine qui était enceinte. Franchement, hein, je pense que j'aurais pu continuer comme ça assez longtemps, tu vois. Et d'un côté, j'étais pas malheureux avec cette vie, tu vois. Je me plaignais pas du tout de travailler 12 heures par jour. Ça m'excitait, ça m'enthousiasmait. J'étais vraiment OK avec ça. Donc, il y a des gens, je pense, qui vont être très heureux avec un business qui fait 40, 50 000 euros par mois, ou même 10 000 euros par mois, tu vois, et en étant tout seul. Et il y en a d'autres qui préfèrent, qui s'en foutent un peu du profit, ils ont envie de créer quelque chose en équipe, d'avoir des gens avec qui partager leur succès, tout ça. Donc je pense que ça revient vraiment à cette notion au début de vision, de qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et elle n'est pas évidente, cette question. Je me faisais coacher
C'est
samedi
clair.
dernier, il y a 3 jours, et je parlais justement avec la personne qui me coach, tout ça, et au bout d'un moment, elle me dit, en fait, tu n'as aucun problème de lead. T'as aucun problème de candidature, t'as aucun problème dans ton équipe de vente, t'as aucun problème dans la livraison, t'as juste un problème de décision, en fait. T'as pas réellement pris la décision. Est-ce que tu veux rester à 3 millions comme t'es aujourd'hui, ou est-ce que tu veux aller à 10 millions? Et en fait, quand il m'a fait prendre conscience de ça, j'ai fait, ouais, en fait, tellement. C'est, en fait, je danse sur deux pieds. Il y a des jours où je me dis, en fait, je suis bien comme ça, et d'autres jours, bah, j'ai envie d'accélérer, tout ça. Et c'est très dur d'aller, c'est très dur, mais c'est le seul chemin qui compte, je pense, d'arriver à couper tout le bruit que tu peux voir à l'extérieur, parce que tu es constamment soumis à des messages marketing, à des gens où tu vois qu'une seule partie de leur vie, et tu dis, oh, j'ai envie de la même vie qu'eux, mais tu vois qu'une partie de leur vie, tu vois. Et que tu as constamment des fantasmes qui sont projetés par la société de comment ta vie devrait être ou de comment ton business devrait être, que d'arriver à couper tout ce bruit pour vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que tu veux vraiment, c'est le truc, je pense, le plus compliqué qui existe, mais aussi le plus important qui existe. Tu veux que ton business soit une source d'accomplissement et de réalisation de soi, en fait. Parce que d'accomplissement, ça peut toujours l'être. Il suffit juste de gagner plus d'argent et tu te sentiras accompli. Mais par contre, te sentir, avoir l'impression de te réaliser, c'est une chose différente, tu vois.
Il y a toujours un débat intéressant, c'est celui entre l'impact maximal et justement le fait de se sentir satisfait. On en a déjà un petit peu parlé dans l'interview. Personnellement, c'est un truc que j'ai pas du tout résolu. Je sais pas, en fait, je sais pas encore ce que je veux exactement, tu vois, entre me dire, il y a par exemple, tu sais, j'ai interviewé Eric Béhanzin là, il y a 2 3 jours, et lui, ce qu'il dit en gros, c'est que si t'as pas une cause pour laquelle tu es prêt à mourir, en fait, ta vie sert à rien. Du coup, d'autres se disent plutôt, en fait, moi, je vais être digital nomade, tu vois, je vais être tranquille. Toi, où est-ce que tu en es? Et est-ce qu'il y a des trucs qui ont particulièrement fait avancer ta réflexion là-dessus?
En fait, je crois que c'est vraiment à cause de putain de messages comme ça, culpabilisants, de gens qui projettent leur système de valeurs, qui fait que les entrepreneurs n'arrivent plus à savoir ce qu'ils veulent vraiment, tu vois. Donc, j'ai rien contre Eric, j'ai juste quelque chose contre le message, tu vois, qu'il délivre à ce moment-là, qui est que il est inspirant ce message, c'est sûr. Mais pour autant, ça met des gens dans une case bien mal, et c'est justement ça qui perpétue le fait que des gens se comparent et essaient de rentrer dans la case qui a été projetée par quelqu'un comme bien mal, tu vois. La réalité, c'est que tu es une grande cause ou quoi. Ça n'a rien de mieux, rien de moins bien. Chacun vit sa vie comme il en a envie. Et tu vois, est-ce que la vie de Steve Jobs, par exemple, qui crée Apple, qui est une des entreprises les plus inspirantes au monde, voilà, qui est un des produits, voilà, qui est vraiment, en termes de culture, en termes de plein de choses, c'est une des entreprises les plus inspirantes au monde. À côté, sa vie personnelle est un peu un chaos. Les gens qui ont travaillé avec lui l'ont admiré, mais d'un autre côté, on dit que qu'il était vraiment pas agréable à vivre. Est-ce que sa vie est mieux? Est-ce que sa vie sert plus à quelque chose que la vie d'un père ou d'une mère de famille qui gagne 2000 euros par mois avec son salaire et qui juste éduque ses enfants de la meilleure manière qu'il veut en lui donnant le meilleur amour qu'il veut au quotidien? En fait, je sais pas, tu vois, pour moi, il n'y a pas à donner une notion de bien ou mal sur ces deux vies. Et chacun a juste à avoir le courage d'écouter ce qui est juste pour lui et avoir le courage d'écouter sa petite voix à l'intérieur qui lui dit comment il a envie de vivre sa vie. Et tu vois, souvent, on croit que avoir le courage, c'est avoir le courage de générer des millions, avoir le courage de se montrer sur Internet, avoir le courage de créer une entreprise qui impacte le monde. Mais non, pour moi, avoir le courage, c'est vraiment avoir le courage d'écouter ce qui est juste pour toi. Et parfois, ce qui est juste pour toi, ça peut juste être d'être digital nomade, par exemple, en gagnant 4000 euros par mois.
Et il y a un autre enjeu, du coup, c'est que quand tu Bon, déjà, faut progresser là-dedans pour essayer de trouver ce que tu veux vraiment. Et ensuite, il y a un autre enjeu que je vois vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comment est-ce que tu gardes ce truc? Parce que moi, j'accompagne des gens qui souvent savent à peu près ce qu'ils veulent. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, comme tu le dis, avec plein de messages différents, en voyant les réseaux sociaux, des gens qui font des trucs de dingue partout, et bah, ils perdent un peu de vue leur truc et ils se disent, putain, finalement, ce que je fais, c'est pas si cool que ça. Je pourrais faire plus, je pourrais avoir tel truc, tel truc, tel truc. Du coup, ils finissent par se perdre. Est-ce que tu constates ça chez les gens que tu accompagnes? Est-ce que toi, tu as un truc pour te, enfin, une sorte d'étoile polaire pour te dire, en fait, moi, je vais essayer de ne pas perdre ce que je veux et pas me faire trop influencer par ces trucs-là?
Ouais, effectivement, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup et ça m'arrive encore, tu vois. Genre, ça m'arrive pendant des périodes et c'est juste une question de prendre. Pour moi, c'est vraiment une question de prendre du temps pour soi et de prendre des temps justement où tu réfléchis à propos de ta vie et tu te demandes, ok, est-ce qu'aujourd'hui ma vie elle m'inspire vraiment? Et pour moi, inspirer, tu vois, c'est in, ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui est vraiment en alignement avec tes valeurs et en alignement avec qui tu es. Ou est-ce que ta vie, elle est juste basée sur une notion de pride and shame, tu vois, fierté et honte, en mode si tu fais pas ça, tu as honte, mais là, comme les derniers mois, tu as réussi à faire ça, bah, tu es fier de toi. Parce que la notion de fierté et honte est juste basée sur toujours une comparaison vis-à-vis des autres. Donc si tu as l'impression d'avancer dans ta vie et tu te sens fier de toi, c'est peut-être que c'est une indication que tu n'es pas en train de suivre ta voie. Alors que si tu te sens juste inspiré, aligné, centré, et que de toute façon tu réussis ou que tu échoues dans ce que tu fais, ben, c'est ce qui t'inspire le plus. Donc la notion d'échec et de fierté n'est pas si importante et tu n'en mets pas ton estime de toi chaque fois que tu réussis, chaque fois que tu échoues. Ben, c'est à mon avis beaucoup plus le signe que tu es dans ta voie, en fait, la tienne, pas celle des autres. Voilà, en fait, le signe, c'est vraiment arriver à voir l'équation globale et voir aujourd'hui, est-ce que par rapport à la vie que j'ai définie, et quand je dis la vie que j'ai définie, c'est pas juste le business que j'ai défini, la vie que j'ai définie dans tous les domaines de ma vie, est-ce que je suis encore en alignement avec ça ou est-ce que j'ai sacrifié certains domaines de vie qui étaient importants pour moi à la base, parce qu'il peut y en avoir qui ne sont pas importants pour toi, mais est-ce que j'ai sacrifié certains domaines de ma vie qui étaient importants pour moi à la base parce que j'ai mis mon business en priorité parce que je me comparais à d'autres entrepreneurs ou à d'autres personnes ou à d'autres messages comme quoi que si t'as pas quelque chose qui te je sais plus quoi, bah, ta vie vaut pas la peine d'être vécue ou un truc comme ça.
Ok, non, je trouve ça intéressant le côté fierté. J'avais pas. Alors, c'est un truc qu'on n'entend pas souvent. Je suis pas sûr de l'avoir déjà entendu quelque part. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant. Et justement, il y a un truc dont je parle beaucoup à mes clients, parce que moi, je parle surtout d'efficience. C'est le
En fait,
côté.
juste,
Ouais, dis-moi.
si tu veux que je développe un peu le concept de.
Ouais,
Ouais, si tu
carrément.
veux que je
Ouais,
développe un
carrément.
En fait, le concept de fierté et honte, c'est que tu vas être fier quand tu crois que tu as fait quelque chose de bien. Et tu vas avoir honte quand tu crois que tu as fait quelque chose de mal. Mais cette notion, le fait de vouloir faire quelque chose de bien, c'est uniquement parce que l'extérieur a projeté un moment que quelque chose était bien ou mal. Donc, tu ne peux ressentir de la fierté qu'à partir du moment où tu viens d'agir d'une manière qui te fait sentir que tu viens de faire quelque chose de bien, mais cette chose de bien, elle est juste à travers ce que l'extérieur a défini pour toi et les comparaisons que tu as faites qui t'ont amené à penser que ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que le bien et le mal, la fierté et la honte, c'est juste une chose de l'ego. Ton âme, elle n'a pas cette illusion du bien et du mal. Ton âme, elle a juste quelque chose qui l'inspire et qui lui donne envie d'agir et qui lui donne envie, tu vois, de se développer, tu vois. Mais la fierté et honte, ça vient que de l'ego et l'ego peut t'amener très loin. Peut t'amener très loin en termes d'accomplissement, mais t'amènera jamais très loin en termes de réalisation de toi, tu vois.
Ouais, donc en fait, la fierté, ce serait un petit peu comme. Enfin, l'inspiration, ce serait un petit peu comme la fierté, mais sauf que c'est dans ton système de valeurs à toi, au fond de toi, quoi.
L'inspiration vient de l'âme, tu vois, genre l'inspiration, l'enthousiasme, tout ça vient de l'âme. D'ailleurs, tu regardes l'étymologie d'enthousiasme, même inspiration, les deux étymologies ramènent à quelque chose de très spirituel, alors que la fierté est juste un truc d'ego en termes d'étymologie.
Ouais, bah c'est, je pense que c'est un truc à continuer à creuser et je ne manquerai pas d'y réfléchir dans mon journal parce que j'aime beaucoup écrire aussi. Ouais, donc je reviens à la question que je voulais te poser juste avant ça et c'était hyper, hyper cool de faire cet ajout. C'est que moi, je parle beaucoup d'efficience parce que je remarque qu'il y a plein de gens qui font plein, plein d'actions, tu vois, et c'est finalement plus pour justement pour une question d'ego aussi de se dire, bah, ok, yes, j'ai bossé 10 heures dans la journée, sauf qu'en fait, tu n'as pas plus accompli que si tu avais fait 4 heures dans ta journée. Et souvent, je remarque que ça, c'est dû à ce que j'appelle la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que normalement, tu dois distinguer entre l'entrepreneur visionnaire qui décide, qui choisit quelles sont les bonnes actions à faire par rapport à ta vision, et puis d'un autre côté, l'exécutant qui fait réellement et qui, bah, des fois, quand tu es en exécution, tu vois, c'est dur, tu n'as pas forcément envie, tu te dis, bon, fais chier, mais sauf que tu sais que ta vision est la plus importante, mais ça peut te faire prendre des mauvaises décisions finalement parce que, bah, un peu dans ce truc-là où tu as la flemme, tu ne le fais pas. Comment est-ce que tu vois ça pour justement l'efficience des entrepreneurs? Enfin, est-ce que tu vois cette distinction clairement chez toi ou est-ce que tu as une autre manière de garder ta clarté sur ta vision et de ne pas forcément abandonner des actions qui sont importantes mais juste qu'à un moment T, tu as un peu la flemme de faire?
Je pense que au début d'une entreprise, malheureusement, quand tu es tout seul, ben, tu as besoin de lever la viande, tu vois, et tu as besoin d'y mettre beaucoup d'énergie, de temps, d'effort. Voilà, tu as besoin d'y mettre ses ressources. Ou alors, tu acceptes que ça prenne plus de temps, tu vois. Mais au début, si tu veux faire décoller ton entreprise, c'est comme un avion, 80% de 80% de l'énergie pour faire voler un avion est utilisé pour le décollage. Et je pense que c'est exactement pareil pour une entreprise. Au début, tu dois y mettre énergie, temps, ressources si tu veux que ça aille vite. Après, si tu acceptes que ça prenne 2, 3 ans ou quoi, tu peux effectivement travailler moins et c'est aussi un choix, c'est ni bien ni mal. Par contre, ce qui est très dur, c'est justement à un stade donné, l'entrepreneur, il doit comprendre que ce qui l'a amené là n'est pas ce qui l'amènera plus loin. Et c'est à ce moment-là où il doit changer cette mentalité de hustle, tu vois, et genre travail dur pour prendre du temps pour penser, parce que le paradoxe, c'est qu'au début, pour avancer, c'est ton temps et ton énergie. Et après, effectivement, tu parlais de cet entrepreneur visionnaire. Bah, au bout d'un moment dans ton entreprise, ton rôle, quand tu as des gens qui exécutent et tout, ton rôle, c'est de réfléchir à la vision, de réfléchir au futur et tout ça. Mais l'inspiration, elle vient que dans les temps de repos, elle vient quand tu as de l'esprit dans ta vie, et si tu es en train de travailler 10 heures par jour, bah, tu peux pas avoir cette inspiration et tu peux pas avoir de tu laisses pas l'espace nécessaire à la créativité pour apparaître. Parce que la créativité, l'inspiration, la réflexion long terme a besoin de temps et d'espace pour apparaître. Donc, effectivement, tu dois changer totalement cette mentalité. Et c'est un challenge que je vois pour beaucoup, en fait. Parce qu'ils ont construit cette identité et du coup, ils ont ancré la croyance que ce qui leur a permis de développer leur entreprise et de travailler dur. Mais ce qui est vrai, mais c'était vrai jusqu'à un certain point.
Ouais, puis c'est vrai, c'est aussi comme tu disais, ça dépend aussi de tes aspirations. Là, toi, tu disais, bah, j'aurais pu continuer à bosser 12 heures par jour. Pourquoi pas, en fait, hein, mais juste après, faut savoir ce que tu veux. Et là, bah, toi, ce que tu voulais, c'était plus ça, donc de parvenir à changer. Justement, aujourd'hui, comment est-ce que tu répartis ton quotidien entre ces différents trucs? Parce que là, tu as toute ton équipe. On peut se dire souvent, ce qui fait peur aussi, c'est le truc de se dire, bah, en fait, je vais devenir un manager, ce que je n'ai pas du tout envie d'être. Comment tu as fait cette transition et aujourd'hui, comment ça se passe?
Ben là, c'est un peu spécial, mais je trouve ça très cool parce que je suis à Bali, donc on a 6 heures de décalage avec la France, ce qui m'oblige en fait à avoir vraiment une impossibilité de communiquer avant 14-15 heures. Donc, c'est cool parce que ça me permet en fait de jusqu'à 14-15 heures et même en général plutôt 16-17 heures parce qu'en France, je prenais pas de rendez-vous avant 14 heures. Et en fait, j'ai un peu gardé cet état d'esprit, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne prends pas de rendez-vous avant 20 heures presque. Donc, ça me laisse vraiment la journée pour penser et être sans distraction. Sans distraction et avoir du temps, avoir tout ça. Donc, aujourd'hui, j'organise ma vie. Genre, le matin, j'ai vraiment un rythme assez cool. Je vais me lever vers 7 heures. Je vais en général avoir un sport à 9 heures. Et en fait, le sport, c'est. Je prends un cahier, tu vois, et je vais écrire. Je vais prendre un café et je vais écrire dans un café de 7h15 à 9h, tu vois, je vais réfléchir, je vais penser, je vais réfléchir sur moi, sur l'entreprise, sur plein de choses. Donc voilà, ça c'est. Après, je rentre du sport, 10h, 10h30. En général, je vais travailler de 11h à 12h30, tu vois, juste les projets sur lesquels je travaille en ce moment et tout. L'après-midi, je ne travaille pas beaucoup. Non, je ne travaille pas en général, tu vois, là, c'était mon premier rendez-vous de la journée. Cet après-midi, je n'ai pas travaillé, j'ai lu. J'ai lu de 14h à 17h jusqu'à ce qu'on sait. Et là, par contre, en général, je vais enchaîner les rendez-vous de 17 ou 19h jusqu'à 21h, en fait, en fonction des jours où j'ai des rendez-vous avec mon équipe, beaucoup de rendez-vous avec les différents membres de mon équipe.
Ok, non, mais je trouve ça intéressant parce que, effectivement, je remarque que la plupart des entrepreneurs qui sont sereins et productifs ont en général une longue période dans la journée pendant laquelle ils ne prennent pas du tout de rendez-vous. Et ils se laissent pas interrompre finalement par des trucs qui pourraient être faits plus tard ou par leur mail, par exemple. Pareil, les gens qui regardent leur mail toutes les 2 heures, des fois même plus, hein, toutes les 2 heures, c'est déjà un accomplissement pour certains, mais ça me paraît. En fait, c'est complètement contre-productif et c'est vrai que le fait de juste de dire pas de rendez-vous avant 14 heures, c'est un truc qui est vachement libérateur pour plein de gens quand ils se mettent cette règle-là, quoi.
J'ai toujours eu cette règle-là, tu vois, même quand j'étais en France. Parce que j'avais remarqué que le matin j'étais beaucoup plus productif. L'après-midi, je suis pas très productif. Du coup, je voulais vraiment me protéger le matin et me protéger mes heures productives. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en France, j'ai pas du tout le même en France ou à Malte, parce que j'habite à Malte. J'ai pas du tout le même rythme puisque je vais me lever vers 6-7 heures et je vais travailler de 7 heures à 11 heures, tu vois, en général, ou de 7 heures à 10 heures, ou de 7 heures à 9 heures. Mais je vais travailler vraiment à être très efficace et productif le matin sur les projets. Et par contre, l'après-midi, je vais me laisser beaucoup plus de temps et le soir, je ne vais rien faire en général.
Ouais, mais finalement, tu as quand même toujours dans ta journée des moments où tu as le temps, où tu peux te poser, où tu peux laisser ton esprit réfléchir, quoi.
De toute façon, je suis incapable de fonctionner autrement, tu vois. Genre, même quand je travaille 12 heures par jour, je travaillais en général de 6h à midi, tu vois, ou de 6h à 13h du matin. Mais par contre, j'allais toujours avoir une pause de 13h à 17-18h et j'allais travailler de 18 à 22 ou 23 ou midi. Mais genre l'après-midi, j'ai toujours été. Au début, j'ai eu beaucoup de culpabilité à ça. Et après, j'ai compris que c'était juste que mon cerveau n'avait plus besoin. C'était juste parce que je me comparais encore une fois à d'autres entrepreneurs. Et j'avais l'illusion qu'il y avait des gens qui étaient productifs 12 heures par jour, non-stop, parce que sur les réseaux, on peut voir parfois cette illusion, encore une fois, mais tu vois qu'une partie de leur vie. Voilà.
On parle souvent de, enfin, et puis les gens sont aussi plus à la recherche de plein de trucs de court terme, genre comment avoir ton prochain client demain, etc. Mais il y a un truc, je pense, qui est vraiment hyper important et qu'on néglige beaucoup, c'est le côté branding, c'est le côté où tu capitalises finalement sur ce que tu as fait pour que ça continue à marcher en travaillant moins. Est-ce que, enfin, et puis, enfin, toi, c'est assez marquant parce que finalement, tu as ce sport de haut niveau, tu parles de la pâtisserie, enfin, y a pas mal de choses qui constituent ton branding, puis même dans ton nom, en fait, un leader de ton marché, ça parle de lui-même. Est-ce que tu donnes des conseils particuliers aux entrepreneurs et notamment aux coachs, thérapeutes qui pourraient générer plus de branding et justement créer une marque dans le long terme?
En fait, j'ai jamais étudié le branding et tout ce qui va avec. J'ai beaucoup étudié les tunnels de vente, le copywriting, la publicité, mais j'ai jamais étudié le branding. Donc c'est marrant que tu me dises que tu perçois que j'ai une marque forte. Et en fait, je pense qu'effectivement j'ai une marque forte, mais tout simplement parce que j'ai utilisé des aspects de branding, mais sans le savoir. C'est-à-dire que pour moi, les deux choses que j'ai fait en termes de branding, c'est raconter des histoires, avoir des métaphores et raconter des histoires constamment et raconter encore et encore et encore ces histoires pour qu'on les connaisse. Et deuxièmement, dépenser tellement en publicité que les gens ne peuvent pas m'avoir vu. Ils ne peuvent pas m'avoir vu. Mais sauf que j'ai dépensé en publicité, tu vois, avec une mentalité court terme, dans le sens où j'aurais pas continué à dépenser en publicité si j'avais pas un ROI à court terme. J'ai toujours eu un ROI à court terme depuis 2 ans et demi, entre 5 et 15, tu vois. Et si j'avais eu un ROI négatif, j'aurais jamais continué à dépenser. Parce que
Bah, ça dure pas
je pense
longtemps,
que le
quoi.
branding, ouais, je pense que le branding doit être la conséquence de ton retour sur investissement, mais pas l'inverse, tu vois.
Ouais, puis finalement, tes clients alimentent ton branding parce que quand ils
Ouais.
parlent de leur succès et tout ça, ça alimente tout ce truc-là. Et c'est vrai qu'avoir un gros branding sans client, bah déjà, ça me paraît compliqué, mais en plus, ça ne sert à rien. Donc,
Ouais, clairement.
quand on est dans le coaching, dans le service, enfin, toi, tu parles beaucoup d'acquisition, mais souvent, ce qu'on entend aussi, c'est qu'une bonne manière de procéder, c'est que ce n'est pas toujours forcément d'avoir toujours plus de clients, parce que bah, ça va te demander du temps, etc. Ça demande certains efforts. Mais par contre, c'est d'upseller tes clients et toujours leur apporter plus de valeur et justement de continuer à travailler avec eux. Comment concrètement, toi, tu gères cet aspect-là? Est-ce que tu te dis que tous tes clients sont potentiels, enfin, tu peux upseller tous tes clients ou alors tu choisis les personnes que tu veux upseller et comment tu introduis ça finalement dans la relation avec tes clients.
Moi, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que je pense que tant que tu n'as pas fait 1 million avec un produit, tu ne dois pas en créer d'autres. Et tant que tu n'as pas fait 1 million avec un produit, tu ne dois pas créer de produit d'après ou quoi. Parce que ça va diluer ton focus et ça va t'empêcher de rester focus sur ton système d'acquisition pour ton produit. Et tu vas commencer à partir un peu dans tous les sens et tout, vouloir vendre ce deuxième produit que tu auras créé en upsell à d'autres personnes et tout. Et ça va plus diluer ton focus qu'autre chose, diluer ton message, plein de choses, et tu vas te perdre. Tu vas te perdre parce que tu vas te dire, ah oui, mais en fait, là, si j'ai un client de plus, je peux peut-être lui vendre ce produit et ce serait facile de lui vendre ce produit parce qu'il est déjà content et tout. Et c'est une super démarche à long terme. Mais le truc, c'est que ce que tu vois pas, c'est que en développant un nouveau produit et en upsellant, ça va te générer beaucoup de ressources, de temps, de pensées et tout, pour créer ce deuxième produit. Et tout ce temps-là, tu vas pas le mettre sur un truc sur lequel tu vas être laser. Et ça va faire que tu vas peut-être générer 10 000 euros, 5 000 euros, 15 000 euros avec ce nouveau produit. Mais tu vois pas le coût d'opportunité que tu as perdu à travailler sur ce produit plutôt que de focus sur un produit qui marche déjà, que tu essaies de pousser encore plus, tu vois. Et moi, j'ai créé mon deuxième produit. J'avais déjà fait 1 million avec le premier. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, on a 3 produits et honnêtement, le troisième est une erreur stratégique, tu vois. Si je devais reprendre, j'en garderais que deux. Donc l'upsell, c'est une super idée. Et aujourd'hui, notre business model est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'on a pour objectif, effectivement, d'augmenter la valeur à vie d'un client en lui proposant à la fin du premier produit un second produit. Mais après ce second produit, on a créé ce second produit pour que ce second produit puisse être à vie. C'est-à-dire que que les gens puissent racheter le même produit. Donc, en fait, on n'a que deux produits. Le premier pour des gens qui vont générer entre 0 et 5 000 euros par mois, par exemple. Et à la fin, normalement, ils génèrent 10 000 euros par mois. Et là, on leur propose notre deuxième produit. Mais ce deuxième produit, que tu fasses 10 000 ou 50 000 ou 100 000, il va encore t'aider. Tu vois. Donc, on a des gens qui vont le reprendre 3 années de suite, ce deuxième produit.
D'accord. Ah ouais, c'est intéressant, du coup, parce que finalement, c'est une sorte d'upsell, mais où tu as conçu ton produit pour que de lui-même se suffise et qu'il continue à faire progresser les gens. J'imagine que du coup, il y a une partie de coaching là-dedans.
Ouais.
Ok. Ok, ouais, hyper intéressant.
Il y a une partie de coaching, il y a une partie où je délivre en direct. Donc, je m'arrange et je m'arrange pour avoir toujours un pas d'avance, en fait. Un pas d'avance sur mes clients, et comme ils voient que je continue à grandir, que je continue à mettre plein de choses dans l'entreprise en place et tout, ils ont envie d'y accéder et ils reprennent des années.
Il y a un truc dans ton histoire que je trouve assez intéressant, et j'ai l'impression que tu en parles régulièrement, mais je sais pas si ça résonne assez, en fait. C'est le côté où tu as cassé ton image perso d'étudiant, et où justement tu as changé ton image de toi pour élever tes standards et continuer justement à progresser. Parce que ça, c'est un truc qu'on a un peu tous, où tu vois, tu commences à gagner de l'argent, et puis comme tu n'as jamais été habitué à en dépenser, tu continues à pas en dépenser, et même tu as peur, en fait, tu as peur de dépenser 500 balles par mois. Quelle utilité ça a déjà? Parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent, mais en fait, ça ne sert à rien de dépenser plus. Et comment est-ce que toi, tu as passé ce cap-là?
Yes. Effectivement, j'avais fait mon premier mois à 40 000 et j'avais fait derrière le mois d'après, je fais 22 000 et le mois d'après, je fais 18 000 et je commence à baisser comme ça et tout. Et à l'époque, je travaillais avec Margot Klein et Margot, un jour, je dis à Margot, putain, ça fait chier, genre, je fais 40 000, le mois d'après, je fais 22 000, ensuite, je fais 16 000, machin. Et elle me dit, mais c'est normal, Julien, tu vis comme un étudiant. Et je dis, comment ça, je vis comme un étudiant? Genre, je comprends pas, c'est quoi? C'est un problème d'acquisition de clients ou quoi? Mais non, tu comprends pas. Tu vis comme un étudiant. Je dis, ça veut dire quoi? Elle me dit, tu dépenses combien par mois? Je dis, si je prends la bouffe je prends les courses, je prends tout ça, je dépense 650 ou 700 euros par mois avec le loyer compris et tout. Elle me dit, tu vis comme un étudiant. Et elle me dit, tu gagnes 40 000 euros par mois. Enfin, tu fais 40 000 euros de chiffre par mois et tu continues à vivre 600, avec 700 euros par mois. Forcément, pour ton inconscient, il ne comprend pas c'est quoi le but d'aller générer plus. Et pour lui, ça lui fait déjà peur. Il n'arrive même pas à se rendre compte de ce que c'est. Et elle me dit, ce que tu dois faire, c'est… ce que je te demande de faire cet après-midi, tu vas dans un centre commercial et tu claques 1500 euros. Quoi? Genre, je vais claquer deux fois ce que je claque normalement dans un mois pour vivre. Elle me dit, oui, je ne te demande pas ton avis, tu le fais. Je dis, ok. Et du coup, j'y vais, claque mes 1500 euros, je reviens, j'étais plutôt content et tout. Genre, je me dis, ouais, c'est marrant. Genre, première fois, premier magasin où je passe à la caisse, je me dis, ah, genre, tu sais, t'avais vraiment la peur de sortir de la caisse, tu regardes le ticket, tu fais, putain, tout ça quand même. Et puis finalement, je prends un deuxième truc et deuxième magasin, je commence à prendre du plaisir. Et le troisième, ah, en fait, c'est kiffant. Tu vois. Et je sors du truc et tout. Et franchement, j'avais kiffé mon après-midi. Et le mois d'après, je fais 127 000 euros de vente. Tu vois. Et là, j'ai compris la puissance. Je n'ai pas tout compris rationnellement. Et les gens, d'ailleurs, quand j'écoute ça, souvent, les gens un peu fermés d'esprit qui disent mais c'est n'importe quoi. Genre, je ne comprends pas, c'est n'importe quoi. Et c'est juste que je l'ai expérimenté et je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je l'ai expérimenté après, quand je stagnais aux alentours de 150 000, tu vois. Je vivais avec 3000 euros par mois et j'avais ce rêve d'avoir une montre qui coûtait 5000 et tout ça et je n'osais pas me l'acheter. Bah pareil, je refais ce truc et derrière, le mois d'après, je fais 250 000, tu vois. Donc, j'ai refait pareil derrière en faisant un mois à 400 000. Donc, je l'ai expérimenté. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement. Je pense juste de toute façon que dans la vie, il y a des choses que si tu t'arrêtes au rationnel, tu vas pas bien loin en fait, parce que le rationnel te dit que c'est pas possible de réussir, que c'est pas possible de créer une entreprise, que c'est pas possible de blablabla. Donc, si tu t'arrêtes au rationnel, tu vas pas aller bien loin. Et à un moment donné, j'ai juste fait confiance à des mentors qui avait déjà fait le pas avant moi et je leur ai juste fait confiance sans questionner. Et je pense que c'est aussi un conseil que je peux donner aux gens qui nous écoutent, c'est à un moment donné, si tu payes un mentor ou un coach ou un consultant et qu'il te donne un conseil sur lequel tu n'es pas d'accord ou alors tu crois qu'il a tort, rappelle-toi pourquoi tu l'as pris. Tu l'as pris parce qu'il a des résultats différents. Et rappelle-toi que s'il a des résultats différents, c'est uniquement parce qu'il a des croyances différentes. Donc, c'est normal que tu ne sois pas d'accord avec lui. Mais si tu t'arrêtes juste à faire ce que tu aurais fait sans lui, bah, ça ne sert à rien en fait. Donc, tu payes un coach, un mentor ou un consultant, applique tout ce qu'il te dit bêtement parce qu'il a un système de croyances qui est différent du tien. Et ce système de croyances va t'amener du coup à des résultats différents.
Ouais, non, mais c'est clair que ce que je dis souvent, c'est que quand tu choisis quelqu'un, il faut que tu aies une confiance aveugle dans cette personne. Et moi, tous les plus grands sauts que j'ai pu faire, c'est aussi à des moments où en fait, j'y croyais vraiment, mais pas du tout. Et en fait, le coach me dit de faire ça. Je lui dis, ok, je vais le faire. Et puis, tu le fais. Puis, en fait, tu te prouves à toi-même que c'est un peu. Moi, j'aime bien ce truc-là, c'est de dire qu'une peur irrationnelle, ça peut pas se. Tu peux pas l'enlever par du rationnel. Tu peux l'enlever que par soit de la pratique. Enfin, c'est que la pratique quoi, qui va pouvoir te l'enlever. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Quoi. Il faut juste. Voilà, ton coach te dit, monte sur la margelle du pont et avance. Bah, juste, tu le fais parce que tu sais qu'il est bienveillant. Alors, il faut bien choisir ses coachs, évidemment. Mais voilà. On arrive aux questions de la fin que j'aime bien poser à mes invités. La première, c'est est-ce que tu as un modèle dans ce monde qui t'inspire particulièrement ?
Un quoi ?
Un modèle. Genre, une sorte de mentor, tu vois, où tu te dis, sa vie, franchement, je kifferais bien l'avoir.
Bon, j'essaie juste parce que comme il commence à faire nuit, je regarde si je peux bouger.
Là, ça va, on te voit pas mal.
Ouais, je vois, mais je peux pas m'asseoir. Ah, okay. J'en ai un paquet, on va dire, mais il y a un paquet de personnes qui m'ont inspiré et qui m'inspirent beaucoup et leur vie m'inspire beaucoup. Mais aujourd'hui, j'essaie vraiment de. J'arrive à un point, je pense, dans ma vie et dans mon entreprise et dans tout ça, où je crois que c'est justement de me détacher des modèles qui existent, qui va me permettre de, moi, créer la vie que j'ai envie de créer et pas juste une imitation de la vie de quelqu'un d'autre. Donc, il y en a eu un paquet, franchement, qui m'ont inspiré. Je pense à Tony Robbins, je pense à John DeMartini, Russell Brunson m'inspire beaucoup. David Laroche m'a inspiré aussi beaucoup. Aujourd'hui, j'ai juste envie de créer ma propre vie et arriver à cesser de me comparer avec l'extérieur, écouter ce qui est vraiment juste pour moi et la voix à l'intérieur de moi qui est mon unique voix, la voix de mon âme. Donc aujourd'hui, je considère ne plus en avoir. Pas que j'écoute pas des gens, au contraire, j'écoute plein de gens dans leurs conseils pour avoir leur expérience ou pour avoir leur expertise sur un sujet précis. Mais de moins en moins pour essayer de ressembler à quelqu'un ou essayer de créer la même vie. Que...
Ok. La question suivante, c'est quelle est la question qu'on ne te pose jamais, mais que tu aimerais qu'on te pose plus souvent ? C'est la plus dure, t'inquiète, après ça devient plus simple.
Comment est-ce que je peux trouver ce qui m'inspire vraiment et créer une vie en plein alignement avec ça ? Parce qu'on me pose beaucoup la question comment générer plus d'argent, comment trouver plus de clients, comment développer son entreprise. Mais tout ça, ce n'est pas important en fait. Je veux dire, beaucoup de gens oublient que le but de développer ton entreprise, théoriquement, ça devrait être d'avoir une vie qui t'inspire vraiment, une vie en plein alignement et qui t'est, une vie qui t'enthousiasme et que gagner plus d'argent ou développer ton entreprise ne doit être qu'un moyen en fait, pas une fin.
Ok, c'est marrant parce que toutes tes réponses en fait sont très depuis le début de l'interview sont très en ligne en fait et ne changent. Enfin, ça c'est intéressant de voir qu'elles sont alignées et du coup, ça se voit que tu as réfléchi à la question en fait, même si je t'ai pas envoyé les questions avant, tu vois, mais que c'est des trucs qui ont bien pu mûrir dans ton esprit et le fait que tu écrives, ça m'étonne pas du tout parce que ça permet vraiment d'avoir de la clarté comme ça. Comment est-ce que tu progresses dans ton quotidien ?
Ça dépend ce qu'on appelle la progression. Je pense que c'est vaste. Je progresse au niveau de mon corps, au niveau de ma santé avec un personal trainer. Je progresse dans mon entreprise en me formant beaucoup, en achetant des formations, en ayant des coachs. Je progresse en tant qu'être humain en lisant beaucoup, en beaucoup de gens qui sont pour moi très connectés à leur âme. En tant que conjoint, je progresse en essayant d'être un peu moins con au quotidien et essayer d'avoir un peu moins d'ego. Voilà. Donc, j'essaie au quotidien de progresser. Et après, pour moi, ça dépend ce qu'on définit progression. Mais je fais de mon mieux chaque jour. J'ai plein de moyens de le faire. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tous les gens qui ont écrit ou qui ont laissé des traces derrière eux ou qui laissent encore des traces derrière eux en éduquant et en laissant accès à la connaissance. Laissant accès à la connaissance partout. Voilà comment je progresse.
Donc tu vas bientôt écrire un livre, ça veut dire.
Il est déjà écrit.
Tu l'as déjà publié?
Non.
Ok,
Il
c'était ce que je te disais.
est en cours de publication là. On est sur les relectures
Ok.
et tout.
T'as déjà le titre ou pas? Pour que les gens qui m'ont écouté dans
Non.
longtemps puissent le trouver.
Non.
Ok, donc tapez Julien Musy livre sur Internet dans 10 ans et vous pourrez le trouver.
Ouais, dans 3 mois, dans 2 mois, je pense.
Ok. Et c'est un livre qui est vraiment plus business où tu ajoutes aussi tout ce dont on a pu parler ensemble sur le côté plus alignement et tout ça.
Ouais, il y a quatre grosses parties. La première partie qui est vraiment sur définir qui tu es, clarifier qui tu es, qui est vraiment juste aller chercher au plus profond de toi qui tu es. La deuxième partie qui est comprendre comment est-ce que tu peux monétiser justement ce qui t'inspire le plus et comment est-ce que tu peux faire ce que tu aimes et aimer ce que tu fais. La troisième partie qui est des stratégies pour développer vraiment ton business et en tout cas arriver à monétiser et arriver à vivre financièrement de ce que tu aimes le plus. Et la quatrième partie qui est comment devenir réellement libre. Et quand je parle de réellement libre, je fais bien sûr une petite aparté sur financier, géographique et ce qu'on entend partout. Mais je passe surtout mon temps dans cette quatrième partie à définir ce que j'appelle la liberté, qui est pour moi une liberté spirituelle et une liberté d'ego, voilà, plus qu'autre chose.
Ok, cool. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, du coup, ceux qui sont arrivés jusque-là et qui ont envie d'en savoir plus, à part dans le livre, mais il n'est pas encore sorti, donc.
Pense que pour ceux qui ont apprécié l'interview, ils peuvent apprécier le podcast, puisque je parle beaucoup de tous ces sujets dans le podcast. Aujourd'hui, honnêtement, c'est le contenu que je pense le plus aligné avec ce que je suis aujourd'hui, avec ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Podcast Julien Musy, le podcast, vous pouvez le trouver facilement. Et après, essentiellement là, après, il y a toujours le site internet musijulien.com pour les gens qui veulent travailler avec nous. Ou travailler avec nous, vous pouvez nous retrouver sur musijulien.com. Mais si vous avez aimé cette interview et que vous voulez plus de contenu comme celui-ci, je pense que le podcast est vraiment le meilleur endroit.
Ok, est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui sont toujours là?
Je suis jamais inspiré pour le dernier mot, donc non.
Ok, bah merci Julien.
Avec plaisir.